Bonsoir, merci d'être là pour cette dernière table ronde. On est trois au lieu d'être quatre pour des raisons hors de notre contrôle. Ce qu'on va faire, je vais dire juste quelques mots, puis introduire les deux intervenants, passer la parole à chacun pendant une dizaine, 15 minutes, puis après on va rebondir et discuter avec vous. Mais en guise d'introduction, il me semble que depuis mardi, ce très bel lieu a été habité par les fantômes des robots. Et peut-être ce soir, pour cette dernière heure, on va avoir des gens qui fabriquent des robots, qui les conçoivent, qui leur donnent à apprendre et qui aussi essaient de comprendre comment ils peuvent interagir avec les humains. Ce qui peut-être va nous essayer de sortir un petit peu de ces questions de fantômes qui sont avec nous. En même temps, on va essayer également d'évoquer des questions qui, depuis quelque temps, sont avec nous, mais en tout cas dans la presse et dans un certain imaginaire du public. Celui de l'intelligence artificielle qui à la fois fascine, passionne, mais surtout semble déranger et susciter énormément d'anxiété et d'inquiétude, surtout parfois pour des raisons qui peuvent nous surprendre, en tout cas peut-être nous, on va voir ce qu'on va dire, par des spécialistes ou des scientifiques. Juste un mot, juste pour donner un petit cadre, on a deux intervenants, Jean-Gabriel Ganassia et Pierre-Yves Audoyer, tous les deux travaillent dans les domaines de l'intelligence artificielle, de la robotique. Jean-Gabriel a travaillé depuis longtemps, mais maintenant aussi, il travaille avec des gens comme moi en littérature et des collègues qui sont plutôt de littéraire. Pierre-Yves s'intéresse beaucoup à la robotique sociale, à la notion de l'apprentissage entre l'humain et l'automate intelligent. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est cette notion de curiosité qui, pour les gens qui viennent de sciences humaines, et sociale, ça suscite beaucoup, en tout cas, un certain imaginaire. Et très, très rapidement, il me semble qu'il est important, peut-être, pour donner un petit cadre pour nos échanges ce soir, qu'on a une double histoire, un petit peu, à la fois de l'intelligence artificielle et surtout de la robotique, une qui est très, très longue, qu'on connaît du point de vue de l'histoire intellectuelle, en tout cas en Occident, celle de l'automate, avec tout ce qu'elle a pu susciter, du golem jusqu'à d'autres récits. Et en même temps, une histoire beaucoup plus récente, qui est peut-être celle plus concrète et qui nous intéressera ce soir, celle de l'intelligence artificielle, de la naissance, les premières années de l'informatique, puis après les écoles successives qui ont façonné ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle. Mais pour ne pas aller trop loin dans mon introduction, je vais passer en premier lieu la parole à Jean-Gabriel Ganassia. Merci Jean-Gabriel.
Merci beaucoup de m'avoir invité et puis donc de me donner la parole sur ce thème de l'intelligence artificielle sur lequel je travaille depuis un certain nombre d'années et que je trouve extrêmement intéressant. Mais peut-être pour qu'on comprenne bien ce qu'est l'intelligence artificielle, faudrait-il revenir un tout petit peu à l'histoire de cette discipline. Je voudrais profiter de ça pour parler du titre de la table ronde qui était « Intelligence artificielle, intelligence humaine ». Ça montre bien qu'il y a une tension entre les deux. Et bien évidemment, chaque fois qu'on parle d'intelligence artificielle, on se demande est-ce que ça va remplacer l'intelligence humaine. Et dès le début, la tension entre les deux formes d'intelligence, entre guillemets d'ailleurs, parce que je ne suis pas sûr qu'il s'agisse d'une intelligence, c'est peut-être que là, il y a un malentendu, parce que au départ, l'intelligence artificielle, elle a été définie en 1955 par un jeune logicien qui s'appelait John McCarthy. Qui n'avait pas 30 ans à l'époque, qui était mathématicien, donc a fait une thèse de mathématiques, et qui a eu des cours qui l'ont fasciné, d'un certain John von Neumann. Alors, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, c'est l'homme qui est à l'origine des architectures informatiques, c'était un très grand mathématicien, et informaticien, enfin à l'origine, à l'époque, ça se dissociait pas du tout. John McCarthy écoute ses cours et se dit on devrait pouvoir utiliser ces machines pour faire des choses extraordinaires. Et il essaye avec un de ses amis qui avait à peu près le même âge que lui, qui s'appelait Marvin Minsky, de créer une nouvelle discipline. Et pour ça, on est en 55, Pour ça, il va prendre le parrainage de deux individus qui étaient assez connus à l'époque. Nick Rochester, qui était chez IBM un des grands cadres scientifiques. Hein, il organisait la recherche chez IBM. Et puis surtout, il obtient le parrainage de l'homme de la théorie de l'information, du grand théoricien, hein, bien sûr, hein, qui s'appelle Shannon, Claude Shannon. Et donc, ils organisent une petite école dans l'université du New Hampshire, hein, à Dartmouth College. Et là, donc, ils se disent, on va créer une discipline scientifique nouvelle qui va avoir pour but d'étudier l'intelligence avec les moyens de l'artificiel, avec les machines telles qu'elles existent. Comme projet, il s'agit de décomposer l'intelligence en différentes fonctions élémentaires et de les décomposer tellement qu'on sera capable de reproduire chacune de ces fonctions sur une machine. Avec un double objectif dès le départ, hein, qui est justement un peu sur le. Qui montre la tension que nous avons ici, c'est que d'un côté, il s'agit de mieux comprendre l'intelligence avec ces machines, avec cette décomposition, avec cette contrainte nouvelle, et donc de lancer une nouvelle discipline, hein, une nouvelle forme de psychologie, hein, qui serait un peu l'équivalent. La psychologie a repris les thématiques de la philosophie sur la cognition humaine, mais elle a essayé d'employer les méthodes qui étaient celles des sciences physiques, et là, ils se disent, on va utiliser de nouvelles méthodes qui seront celles des sciences de l'artificiel. Donc c'est un défi qui est tout à fait passionnant. Et puis ça se double d'une deuxième chose, dès le départ, et se rendre compte que cette simulation des capacités cognitives peut avoir un intérêt pratique, parce qu'on peut réaliser des machines qui vont faire tout un tas de choses. Et là, ils lancent un programme de recherche. Ils disent, ben, on va d'une part développer des machines plus puissantes, bien sûr, d'autre part, on va concevoir des langages de programmation, et puis on va étudier des phénomènes d'apprentissage, hein, en particulier, ils pensent au réseau de neurones formels, hein, qui avait été inventé quelques années auparavant, 15 ans auparavant, hein, donc ce ne sont pas des choses nouvelles, hein, quand on nous parle du deep learning, enfin, c'est une petite parenthèse, hein, ce sont des choses qui se réfèrent quand même à des idées relativement anciennes. Mais donc ensuite, ils vont se dire, ben, on pourrait étudier la créativité, par exemple, sur ces machines, on pourrait étudier tout un tas de choses. Ils donnent une liste de thèmes de recherche, l'abstraction, par exemple. Et cette école se tient en 1956. Deux ans après, on va avoir les premiers programmes qui vont marcher. En particulier, deux personnes, hein, qui s'appellent Herbert Simon. Une personne s'appelle Herbert Simon, qui deviendra quand même prix Nobel d'économie, avant d'obtenir, hein, ce qu'on appelle la Turing Award, c'est-à-dire, hein, la médaille Turing, la récompense la plus prestigieuse en informatique. Et puis l'autre, qui s'appelle Alan Newell, vont concevoir un premier programme qui va démontrer automatiquement des théorèmes de logique, en reprenant le petit ouvrage de Whitehead et Russell, Principia Mathematica, et ils prennent la plupart des théorèmes et ils arrivent à les démontrer automatiquement. Donc ça enthousiasme les gens, et puis on commence, c'est un programme de recherche, hein, on lance tout un tas de projets, et à ce moment-là, bien sûr, Herbert Simon, un peu poussé par les réussites, hein, va lancer un certain nombre de défis. Il dit, si d'ici 10 ans, on n'interdit pas les compétitions d'échecs aux programmes informatiques, elles seront championnes du monde d'échecs. D'ici 10 ans, toutes les théories de psychologie prendront la forme de programmes informatiques. D'ici 10 ans, les programmes informatiques composeront de la musique douée d'une indéniable qualité esthétique. D'ici 10 ans, les théorèmes mathématiques seront démontrés avec des ordinateurs. 10 ans après, bien sûr, il y a peut-être une petite déception parce que ces propositions ne sont pas réalisées. Mais, bien sûr, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est 60 ans après ? Et 60 ans après, ça on ne s'en rend pas compte, mais le monde a changé. Et qu'est-ce qui a le plus changé ? Qu'est-ce qui a été le moteur de ces transformations ? C'est l'intelligence artificielle. Alors vous allez me dire, ah ben non, parce qu'on ne le voit pas, parce qu'il y a l'informatique. Non, mais justement, si vous regardez bien, hein, dans les transformations, par exemple le web, on oublie que c'est de l'intelligence artificielle. Alors vous allez me dire, bah oui, c'est des réseaux, c'est des câbles. C'est... Oui, bien sûr, Internet, ça existait avant dans les années 60. Mais qu'est-ce qui fait le web ? Qu'est-ce qui fait que vous avez tout d'un coup eu envie de communiquer de cette façon-là ? C'est un concept qui s'appelle l'hypertexte. Et d'ailleurs, le langage d'écriture des pages web s'appelle HTML, Hypertext Markup Language, le langage de balise des hypertextes. Alors, qu'est-ce que c'est que l'hypertexte ? Eh bien, l'hypertexte, c'est une idée qui a été inventée par un philosophe un peu étrange qui s'appelle Ted Nelson, et qui s'est dit, j'aimerais essayer de reproduire sur une machine ce qui se passe dans mon esprit. Et puis, il trouvait que c'était difficile, il n'est pas arrivé. Alors, il a dit, je vais faire quelque chose qui va ressembler un peu à ce qu'est une mémoire, dans laquelle on peut avoir des liens entre les choses. Et comme il était assez imaginatif, il a créé un néologisme qu'il appelait hypertexte. Et il a programmé ça, il a publié en 1965, dans une conférence d'intelligence artificielle avec des techniques d'intelligence artificielle. Alors ça, c'est un exemple, mais vous en avez beaucoup d'autres. La reconnaissance des formes, la reconnaissance de la parole, la compréhension du langage, des systèmes comme Watson, par exemple, qui sont capables de gagner sur des êtres humains au langage naturel. Tout ça fait appel à de l'intelligence artificielle. On parle aujourd'hui du big data, du traitement de grandes masses de données qui jouent un rôle considérable dans l'économie contemporaine. Alors, je ne vais pas énumérer toutes les réalisations actuelles de l'intelligence artificielle, elles sont extrêmement importantes. On peut dire que l'économie contemporaine est directement liée à l'intelligence artificielle. Alors, ce double aujourd'hui de ce constat de succès, une inquiétude. Et on nous annonce tout d'un coup une transformation qui va avoir lieu, et en particulier, on parle de singularité technologique, de catastrophe. Est-ce que l'intelligence artificielle peut être qualifiée comme étant, soit responsable de ces choses-là, ou est-ce qu'il y a un risque de cet ordre-là ? Alors là, je crois qu'il convient d'abord d'analyser les arguments de ceux qui disent cela. Ces arguments, quand on les regarde très sérieusement, ils ne tiennent pas la route. On en rediscutera peut-être tout à l'heure, mais ils reposent sur, trois choses. D'une part, l'idée, ce qu'on appelle la loi de Moore, c'est-à-dire l'accélération de la puissance de calcul des machines qui, depuis 1959, est exponentielle, c'est-à-dire qu'il y a un doublement, plus ou moins d'ailleurs régulier, de cette puissance des machines tous les 12 ou 18 mois. Donc, est-ce que ça va se continuer ? Eux se disent que ça va se continuer éternellement, donc on n'en sait rien. Deuxième chose, ils disent l'intelligence des machines, entre guillemets bien sûr, parce que cette notion d'intelligence est très délicate, c'est pas simplement de la puissance de calcul, l'intelligence des machines est directement liée à cette puissance de calcul, et donc si la puissance de calcul s'envole comme ça, elles deviendront tellement intelligentes qu'elles nous dépasseront, là encore, il n'y a pas de lien direct entre la puissance de calcul et l'intelligence. Je plus tard que ce matin, il y a une journaliste du Monde qui m'a demandé des conseils, parce que il y a des gens qui ont dit qu'ils avaient fait passer un test de QI à une machine et qu'elle avait le QI d'un enfant de 4 ans. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire qu'avoir le QI d'un enfant de 4 ans ? Alors, l'article était très intéressant, il était publié dans la MIT Tech Review, parce qu'il détaillait les performances comparées de la machine et d'un enfant. Et c'était d'abord une tâche particulière qui était une tâche de verbalisation. Alors, tous les gens qui connaissent le QI savent qu'il y a un grand nombre de tâches. Et puis, la signification du QI, vous savez très bien qu'elle est tout à fait discutable. C'est une moyenne, le QI. Et puis, ce n'est pas parce qu'une machine aujourd'hui à les performances d'un enfant de 4 ans que dans 50 ans, elle aura les performances d'un enfant de 8 ans, par exemple. En tout cas, ou alors qu'en doublant la puissance des machines, elle va doubler ses performances. Donc tout ça, bien sûr, sont des questions qui sont ouvertes. Et puis le troisième argument qui est déployé par un certain nombre de gens, fort connus, c'est que avec les grandes quantités de données qui sont aujourd'hui à notre disposition, nous allons avoir affaire à des machines qui sont capable d'apprendre, d'acquérir des connaissances qui vont aller bien au-delà de nos connaissances. Alors, là-dessus, bien sûr, on peut être tout à fait d'accord, c'est-à-dire que ce qu'on est capable aujourd'hui d'acquérir comme connaissances à partir de toutes les données est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a des nouvelles sciences qui se dessinent aujourd'hui avec les techniques d'apprentissage machine. Et c'est un défi passionnant que notre intelligence peut essayer de relever, s'augmenter avec les machines. Mais en même temps, est-ce que ça veut dire que les machines vont nous dépasser ? Ça dépend ce qu'on entend par dépasser, bien sûr. De même que ça fait très longtemps que des machines sont capables de calculer mieux que nous, c'est pas pour ça qu'on est dépassé par les machines. Alors, bien sûr, après, ce qu'il faut se demander, c'est qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que il y a vraiment ce risque d'avoir une intelligence artificielle qui va nous dépasser. Alors moi, je crois que ça veut, disons, ce que disent un certain nombre de gens, c'est qu'il va y avoir une autonomisation de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que tout d'un coup, elle va se déployer indépendamment de nous, qu'elle va devenir autonome au sens, non pas classique, c'est-à-dire d'une voiture autonome, c'est-à-dire qu'elle va se mouvoir d'elle-même, mais autonome au sens philosophique, c'est-à-dire qu'elle va se doter de sa propre loi et qu'elle va se donner ses propres désirs pour y satisfaire directement. Alors ça, je veux dire, ce sont des hypothèses qui ne reposent sur absolument rien de tangible. Et je crois que ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, dès le départ, en intelligence artificielle, il y a la discipline scientifique que je vous ai présentée tout au départ, et puis il y a cette autre idée qui est un peu différente. Pour ça, on va reprendre le terme intelligence artificielle. J'ai dit c'est un horizon scientifique, une discipline qui veut étudier l'intelligence avec les moyens de l'artificiel. Et à ce moment-là, bien sûr, ça nous permet de mieux comprendre l'intelligence humaine, éventuellement de suppléer à un certain nombre de capacités de l'intelligence humaine. Et puis ensuite, on va dériver, et le terme lui-même laisse entendre qu'il y aurait une intelligence artificielle. C'est totalement différent. Je vous ai bien dit au départ, on décompose l'intelligence en différentes fonctions, on va simuler chacune d'entre elles. L'idée qu'il y ait une intelligence, c'est une idée complètement différente. C'est l'idée qu'effectivement, on va avoir un double de nous-mêmes, que ce double va pouvoir prendre conscience de lui-même et va pouvoir agir pour lui-même, non pas seulement au service des hommes. Et ça, je crois que donc ça fait partie des mythologies contemporaines. Ça reprend, hein, et c'est pour ça que je suis extrêmement content de parler ici et à côté de Milan, parce que ça reprend des vieilles craintes qui sont bien antérieures aux machines, qui sont bien antérieures à l'intelligence artificielle, hein, qui sont par exemple, hein, des mythes comme ceux du golem, hein, que Milan a mentionné tout à l'heure, où effectivement, hein, on a toujours cette crainte que l'œuvre de l'homme dépasse l'homme, c'est-à-dire que l'homme qui réalise quelque chose se met à l'égal d'un dieu, hein, et à ce moment-là, il commet un péché irréparable, hein, et cette œuvre risque de se retourner contre lui. Alors, pour ça, bien sûr, hein, il faut peut-être revenir au mythe du golem. Hein, et Norbert Wiener, hein, qui est un des pionniers de la théorie de l'information, justement, s'est beaucoup intéressé à ça. Parce que quand on lit bien le mythe du golem, il est passionnant. Parce que ce qu'il nous dit, c'est que d'une part, il faut une grande perfection pour arriver à réaliser un golem. Et d'ailleurs, si vous allez à la synagogue, à la vieille synagogue de Prague, vous voyez que la chaise de Rabilov, qui est la personne qui a créé le golem, hein, est considéré comme sacré. Il y a une chaîne devant, on ne peut pas s'asseoir devant. C'est un homme vénéré. Et en même temps, il a eu la sagesse, une fois que sa machine commençait à s'autonomiser, c'est-à-dire à prendre des décisions qu'il ne maîtrisait plus, il a eu la sagesse de détruire cette machine. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il faut détruire la machine? Je ne crois pas. En revanche, il faut bien sûr s'intéresser aux limites des machines, aux risques qu'il y a sur les machines. Et ça va peut-être me conduire à donner la parole, hein, à mon voisin. Parce que nous-mêmes, donc, nous travaillons aussi sur des questions d'éthique liées au développement des machines, à la fois sur les questions d'éthique des ordinateurs, mais aussi sur les questions de robotique et de limitation, d'auto-limitation des robots, puisque à partir du moment où ces machines autonomes sont capables, au sens d'autonomie de mouvement, attention, hein, on leur donne un but, mais elles sont capables d'apprendre, elles sont donc capables d'avoir des comportements qui sont imprévisibles, puisque plus personne ne les a programmés, puisqu'elles vont avoir chacune une expérience particulière, et à partir de cette expérience, elles seront capables de tirer des connaissances supplémentaires. Et donc, bien sûr, ce qu'il faut faire, c'est être capable, lorsque ces machines nous échappent un tout petit peu, d'avoir un certain nombre de règles qui sont dans ces machines pour qu'elles contrôlent elles-mêmes les limites de leur mouvement, ce qu'il ne faut pas qu'elles fassent.
Merci beaucoup Jean-Gabriel. C'est très riche, on y reviendra, mais je vais passer tout de suite la parole pour qu'on ait à la fois des échanges, des débats, et puis après on va y revenir entre nous et avec vous.
Merci beaucoup. D'abord, je voulais vous remercier de m'avoir convié dans cette journée extrêmement intéressante. Pour présenter effectivement une perspective complémentaire, d'abord sur le terme intelligence artificielle, c'est vrai que c'est un terme assez compliqué. C'est un terme qui n'est pas toujours, me semble-t-il, le plus utile d'utiliser dans tous les contextes, parce qu'en fait c'est un terme qui veut dire à peu près tout et donc à peu près rien. Il est utilisé par y compris dans la communauté scientifique, par des chercheurs de domaines différents qui lui associent des sens différents. Et puis, dans le monde économique, dans le monde social, lui est associé aussi des sens extrêmement différents. Alors néanmoins, j'ai l'impression que derrière tous ces différents concepts et interprétations, il y a quelque chose qui ressort, un invariant, qui révèle une révolution sociétale qui existe depuis quelques décennies. C'est qu'après le 19e siècle, ou les siècles précédents, où on a eu le développement de machines qui étaient des technologies qui étendaient le corps de l'humain, des machines qui remplaçaient son corps et sa force. Aujourd'hui, on a des machines qui se développent et qui étendent son esprit, qui ne sont pas forcément là, d'ailleurs, pour remplacer l'esprit de l'homme, de l'humain, mais qui sont là pour l'étendre. Et du coup, j'aimerais discuter rapidement deux grands exemples de domaines dans lesquels parfois on utilise le terme d'intelligence artificielle, et vous verrez qu'en fait, ces domaines sont assez différents et que le mot, quand il est utilisé dans ces deux domaines-là, veut dire des choses très différentes, voire même parfois incompatibles. Et qui, dans les deux cas, effectivement, leur point commun, c'est que ce sont des objets qui vont étendre l'esprit. Alors, le premier grand domaine, je vais repartir un petit peu d'un petit élément historique que citait Jean-Gabriel, c'est l'histoire des technologies de recherche et de filtrage d'informations, qui sont évidemment aujourd'hui essentielles dans le monde qui nous entoure. Et comme Jean-Gabriel le disait tout à fait, leur origine est véritablement dans un certain nombre de recherches des années 50 et 60, qui au départ s'appelaient intelligence artificielle, qui après ne s'appelaient plus du tout comme ça, ça a changé de nom. En particulier, par exemple, au début de la science intelligence artificielle, eh bien, on se donnait comme objectif de construire des machines qui allaient être capables de reproduire certaines capacités de l'humain, pour lesquelles chez les humains, quand elles le faisaient, on dit que ces humains-là sont intelligents. Par exemple, jouer aux échecs, ou trouver des preuves à des théorèmes de mathématiques. Et on a commencé à développer des techniques pour le faire automatiquement, et ce qui rejoint la plupart de ces techniques-là, ce sont des manières efficaces, malines, de rechercher dans des espaces de très grande dimension, très efficacement. Ça a amené assez rapidement à, par exemple, développer effectivement des outils de preuve automatique qui n'étaient pas là pour remplacer les mathématiciens, mais pour les aider à trouver des preuves à des théorèmes compliqués un petit peu plus facilement. Ces outils sont d'ailleurs aujourd'hui extrêmement utiles dans une branche, dans certaines branches de l'informatique et des mathématiques, et les théorèmes récemment extrêmement compliqués qui ont été développés grâce à ces outils-là, qui viennent au départ de l'intelligence artificielle, mais qu'on n'appelle plus du tout comme ça aujourd'hui. Et dans ce contexte-là, d'ailleurs, on n'utilise pas le terme intelligence artificielle, et les choses sont assez bien contrôlées. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce contexte-là ? On a un outil qui, finalement, va étendre les capacités cognitives, intellectuelles et même créatives de l'humain, qui est ici un mathématicien, qui lui permet notamment de résoudre des problèmes que s'il n'avait pas eu la machine, il n'aurait pas réussi à résoudre. Dans ce contexte-là, en général, le mathématicien comprend assez bien ce qui se passe. En général, c'est celui qui a conçu l'outil d'aide à la preuve qui est au cœur de l'utilisation de l'outil pour faire la preuve. Donc ça se passe bien. Mais il y a d'autres de ces technologies qui ont amené, comme le disait Jean-Gabriel, à d'autres développements, comme par exemple, effectivement, les algorithmes qui sont au cœur des moteurs de recherche qui existent aujourd'hui. Derrière les grands moteurs de recherche, on a effectivement des algorithmes qui vont être capables, en un éclair de seconde, d'aller chercher des informations selon des critères particuliers dans des bases de données de milliards d'informations et qui vont, de manière générale, servir ici pas à des experts comme des mathématiciens, mais à monsieur tout le monde. Alors, comme pour les mathématiciens, ces outils-là vont ouvrir de nouveaux espaces à leur cerveau, et ça va leur permettre de découvrir des connaissances nouvelles, d'acquérir des informations, de former des nouveaux concepts, d'apprendre des nouveaux savoir-faire, d'apprendre par exemple des éléments de sciences politiques, des éléments d'économie. Mais il y a une petite différence, c'est que ici, monsieur tout le monde, il ne sait pas forcément comment fonctionnent ces outils-là qui étendent son esprit. Et ici, effectivement, on s'aperçoit qu'on a une problématique aujourd'hui, un défi qui se pose, qui est, on a des outils qui, véritablement, potentiellement, sont extraordinairement riches pour étendre nos capacités de réflexion, de conceptualisation, d'apprentissage. Et d'ailleurs, pour beaucoup d'entre nous, dans nos métiers, on ne pourrait pas imaginer ne plus avoir ces outils-là. On ne serait plus du tout capable de travailler, de réfléchir comme avant. On deviendrait moins intelligent, comme tout à l'heure on l'entendait. Mais en même temps, ça nous biaise. Ces outils-là, ils nous aident à attirer notre attention vers des informations qui sont filtrées, qui sont sélectionnées. Ça veut dire que, par exemple, ils mettent de côté, ils éloignent automatiquement de notre attention tout un tas d'autres informations, selon des lois algorithmiques qui souvent ne nous sont pas connues. Et encore moins comprises. C'est-à-dire que, y a deux éléments ici. Si on les connaissait parfois, ce n'est pas forcément toujours très facile de comprendre comment elles fonctionnent, parce qu'aujourd'hui, on a des systèmes effectivement qui fonctionnent à l'échelle du réseau de tous les ordinateurs du monde et qui font des calculs qui sont assez différents de ceux que font notre cerveau habituellement. Mais en plus de ça, bien souvent, on ne connaît même pas ces algorithmes-là. Donc là, on a un petit défi. Et puis, il y a d'autres exemples. Par exemple, pas des exemples de recherche d'informations, mais des exemples d'algorithmes qui influencent la manière dont on va découvrir d'autres humains, de former des réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Et là encore, qui reposent sur des algorithmes qui vont avoir une influence assez fondamentale sur la manière dont vont s'organiser les réseaux sociaux humains. Et là, c'est de la même manière, la plupart d'entre nous, y compris nous, chercheurs en informatique, on ne comprend pas vraiment ce qui se passe sur ces réseaux-là, à la fois parce que la dynamique de ces réseaux est complexe, et puis il y a une partie des algorithmes qui sont utilisés qui sont juste secrets. Alors, c'est assez intéressant parce que pendant longtemps, on n'a plus appelé toutes ces technologies-là de l'intelligence artificielle. On appelait ça des bases de données, de l'inférence statistique. Mais depuis quelque temps, on commence à la réappeler intelligence artificielle. Alors, ce n'est pas totalement évident de savoir quelle en est la raison, si c'est volontaire ou involontaire, mais ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est par exemple que les grandes entreprises comme Google et Facebook mettent en avant le fait qu'elles utilisent des technologies d'intelligence artificielle pour toutes ces fonctionnalités-là, et elles le font d'une manière qui parfois peut poser question, un petit peu comme ce que notre collègue Camille Allouin l'expliquait tout à l'heure. Si par exemple on lit les documents de Facebook qui expliquent aux autres entreprises comment elles pourraient travailler avec lui, eh bien Facebook explique, nous on a conçu un algorithme d'intelligence artificielle dont le fonctionnement est naturel, organique, donc il y a tout le champ lexical qui va convoquer dans l'esprit de Monsieur Tout-le-Monde, des références émotionnelles, imaginaires, assez particulières. Et un peu pour dire, ce truc-là, c'est vraiment très, très puissant, on ne comprend pas tout, mais quand même, comme c'est nous les concepteurs, on a les clés. Et évidemment, si vous voulez travailler avec nous, on va pouvoir un petit peu le biaiser pour le faire fonctionner comme il pourrait. Donc là, il y a des questions qui se posent. Et la conclusion qui est assez claire quand on regarde tout ça, c'est que, donc, quel que soit le terme qu'on utilise, intelligence artificielle ou pas, on a des outils qui véritablement aujourd'hui modifient la manière dont on conceptualise le monde, dont on apprend. Mais pas toujours de manière volontaire. C'est une superbe opportunité, mais seulement si on la comprend. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a deux impératifs pour la société. Un, c'est l'éducation, c'est-à-dire qu'il faudrait que tout le monde puisse avoir les clés intellectuelles pour comprendre ces systèmes-là. Et puis deux, c'est l'ouverture. C'est-à-dire que si on commence à vivre dans un monde dans lequel notre manière de penser, les outils qu'on utilise tous les jours pour prendre nos décisions et choisir avec qui on va travailler, si c'est basé sur des choses dont on n'a pas les outils pour les comprendre et dont on n'a même pas la clé pour avoir la source, c'est problématique. Donc là, il y a quelque chose à faire dans cette direction-là. Rapidement, un deuxième exemple. Avant d'y passer, ce qui est intéressant, c'est que dans tout cet univers californien d'entreprises qui utilisent maintenant cette terminologie d'intelligence artificielle, on a aussi un peu une pensée magique, y compris par les chercheurs, qui sont parfois extrêmement brillants de ces domaines-là, qui les amène à expliquer que, effectivement, avec les arguments que Jean-Gabriel listait, dans quelques années, pas si longtemps que ça, on aura des machines qui auront des capacités intellectuelles qui dépasseront de beaucoup celles des humains. C'est ce qu'on appelle la théorie de la singularité. Et alors, c'est assez surprenant parce que on a l'impression que ces chercheurs-là, il n'y a pas que des businessmen qui parlent de ça, c'est vraiment des chercheurs. Ben finalement, ils n'ont pas pris assez de recul par rapport à ce que c'est que effectivement les opérations cognitives qui se passent chez l'humain, parce que aujourd'hui, ce qu'on commence à s'apercevoir, et là, par rapport à un autre domaine de recherche complètement différent, qui est plutôt celui dans lequel je travaille, dans lequel qui s'appelle la robotique cognitive développementale, on commence à utiliser des machines comme des outils pour mieux comprendre l'humain et l'homme, qui était d'ailleurs l'une des motivations à l'origine de l'intelligence artificielle, dans lequel on va essayer d'utiliser pour modéliser véritablement ce qui se passe chez l'humain, et non pas pour faire des applications, mais pour comprendre tout simplement. Ben, on s'aperçoit par exemple que quand on essaie de construire des robots qui vont apprendre à marcher, attraper des objets, apprendre le sens de mots aussi simples que ce que c'est qu'une chaise, un verre, eh ben, on n'y arrive pas. On en est très très loin. Et ce qu'on s'aperçoit si on essaie de construire ces machines-là, c'est qu'on est à des années-lumière de construire des machines qui ont les capacités d'adaptation à des environnements réels, physiques, sociaux, aussi complexes qu'un enfant de 6 mois, ou même qu'un chiot, ou qu'un petit chat. On en est à des années-lumière. C'est même pas qu'on pourrait dire dans 50 ans, on va avoir des choses extraordinaires, c'est qu'il y a des obstacles incommensurables aujourd'hui qui restent à franchir, et c'est pas surprenant. Le cerveau est probablement l'un des objets scientifiques les plus complexes de l'univers qui nous entoure. Ça fait à peu près une centaine d'années que la science a commencé à s'intéresser à son cerveau et à son fonctionnement de manière naturalisée, c'est-à-dire de manière dans laquelle on a essayé de comprendre comment il fonctionne dans son instanciation physique. Avant, c'était le domaine de la philosophie. On a mis 2000 ans pour comprendre la gravité. Il ne faut pas imaginer qu'en 100 ans, on va comprendre les principes fondamentaux du cerveau. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant par rapport à la premier grand exemple que j'ai décrit sur les machines avec de l'intelligence artificielle, c'est qu'il y a d'autres travaux qui se développent dans lesquels on utilise les machines pour essayer de comprendre plus fondamentalement quelle est la complexité de ce qu'on appelle dans le langage de tous les jours l'intelligence chez les humains. Et je ne vais pas donner beaucoup de détails, mais un des éléments aujourd'hui qu'on commence par exemple à comprendre en faisant ces expériences-là, c'est qu'en fait le cerveau humain, pour fonctionner en société et dans le monde, il a besoin d'un corps qui a une instanciation physique. Par exemple, on s'aperçoit en faisant des expériences avec des robots qu'il semble vraiment difficile de faire comprendre à une machine le sens de mots même concrets comme de l'eau, une table, un son, sans qu'elle ait eu elle-même un corps pour faire l'expérience avec ses sens et son répertoire d'action, faire l'expérience de ces choses-là. Et alors, c'est intéressant parce que ça pointe vers quelque chose qui est... Tout à l'heure, Bruno Bonnel disait, mais il y a beaucoup de gens qui ont dit, peut-être inconsciemment, ils essayent de tout digitaliser leur vie, de telle manière à pouvoir peut-être atteindre une forme d'immortalité. Ou, voilà, c'est des choses qu'on voit dans les films de science-fiction. En fait, aujourd'hui, en faisant ces travaux avec d'autres formes de machines, on commence à comprendre que peut-être, en fait, c'est intrinsèquement pas possible. Parce que une partie de notre cognition et notre intelligence, eh bien, est fondamentalement ancrée dans la logique du monde physique et avec des dimensions qui ne sont pas calculatoires.
Merci beaucoup à vous tous les deux. Je veux juste rebondir très très vite pour qu'on puisse discuter entre nous, puis après y ouvrir. Effectivement, il est tout à fait remarquable d'observer plusieurs aspects. Tout d'abord, et c'est souvent rare dans certains cas des grandes sciences, le retour vers l'histoire ici est très très révélateur. On va retrouver à la fois les origines de certaines des orientations et en même temps parfois les abus du point de vue, d'usage de tel ou tel mot. Mais au-delà de là, je dirais quand même on retrouve dans les deux interventions une thématique qui me semble... Moi, j'avais travaillé sur l'histoire de l'intelligence et j'étais très, très frappé que et dans ce que j'avais essayé de faire, j'avais commencé d'une notion de l'homme stupide. Parce que c'était beaucoup plus facile que de chercher l'homme intelligent. Et au-delà de là, ce qu'on découvre assez vite, il y a quelques mots-clés qui reviennent sans cesse. Et moi, je suis très frappé. Par exemple, on a la notion de l'apprentissage associé à l'enfance. Elle est déjà chez Turing dans l'article de 1950. C'est assez remarquable. C'est quelque chose qui revient sans cesse. Ce que vous venez de vous dire en plus, c'est tout à fait remarquable également parce que ça nous dit, il y a un mythe qui nous dit que l'informatique est dans une enfance perpétuelle. Du coup, dans certains cas, elle se permet de raconter des histoires. Dans 50 ans, on va arriver à telle ou telle, cette dimension soi-disant prophétique. L'autre aspect qui a été évoqué par les deux, également, il me trouve, et ça, je crois que c'est intéressant, j'avais suivi, par exemple, juste pour mettre en contexte la raison pour laquelle je dis ce que je vais dire, à quel moment la machine commence à faire corps. C'est tout à fait remarquable à faire l'histoire. Au début, elle écrit sur l'écran. Après, elle a une voix. Puis maintenant, on essaie de lui donner un corps. Et c'est extrêmement remarquable, surtout ce que vous venez de dire avec cette nécessité, de impossibilité de séparer l'esprit the mind, comme ils disent, de l'autre côté de l'Atlantique, avec le corps, et on se trouve sur des problèmes qui étaient évoqués, qui vont toucher à la fois certaines dérives transhumanistes ou bien certaines déviations. C'est assez intéressant. L'autre chose qui, pour aller très vite, il me semble par contre que c'est très intéressant qu'on a beaucoup insisté sur les dimensions des succès des soi-disant intelligences artificielles, tout ce qui est de l'ordre du calculable, la stratégie, le calcul, échec, ainsi de suite. C'est une lignée où on peut dire Big Blue a gagné le match, Herbert Simon c'est le cas exemplaire. Hein. Et en même temps, déjà chez Turing, il avait les deux. Si je me rappelle très bien, il avait Social Search dans Intelligent Machinery, et l'autre qui était celui du calcul. Et pendant très très longtemps, le social search était complètement secondaire. Et aujourd'hui, il existe depuis le web et Internet, mais on l'appelle intelligent. C'est tout à fait assez une histoire. Tout à fait. Et la question que je me pose, non, un dernier point, quand même c'est intéressant au point de vue historique. Jean-Gabriel a évoqué les conférences de Dartmouth, et c'est intéressant que l'histoire de la cybernétique, c'est les Macy Conferences, et l'histoire de l'intelligence artificielle, c'est le Dartmouth conferences. On a toute une histoire qui était bâtie, les gens n'étaient pas toujours, ils étaient assez fréquemment les mêmes qui étaient dans les deux. Et on trouve ces lieux qui ont ces sites, ces moments très très déterminants dans l'histoire de cette science qui reviennent sans cesse. C'est assez, assez puissant. Mais la question que je me pose pour essayer de vous lancer entre les deux, on a d'un côté un modèle cognitif qui est très intéressant. Moi, la question que je me pose à vous deux, comme on dit en anglais, je ne sais pas comment très bien le traduire, l'intelligence is context-bound. Et ce contexte-là, est-ce qu'il est universel, est-ce qu'il est passé à un certain niveau de l'universel, ou bien, et comment ça peut se jouer dans la pratique de la conception, la programmation, de tous ces aspects?
Alors, je ne sais pas si j'interprète bien votre point de vue, mais ça me fait penser aujourd'hui à un débat qui existe entre plusieurs domaines de recherche. Il y a des gens qui, aujourd'hui, essayent de développer ce qu'ils appellent des intelligences artificielles universelles.
Oui, c'est vrai.
Voilà. Ou des gens, par exemple, qui travaillent sur des mécanismes d'apprentissage automatique, mais en essayant de les décontextualiser le plus possible, en essayant de faire des mécanismes les plus généraux possibles. Et puis, il y a d'autres perspectives, dont je fais plutôt partie, en fait, qui s'aperçoivent que si on s'intéresse à, pas des mondes abstraits, mais au monde dans lequel nous vivons, et qu'on s'intéresse à la manière dont les êtres vivants sont capables de trouver des solutions aux problèmes qui les entourent, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a un gros problème qui se pose aux êtres vivants, qui est que le monde qui les entoure est multidimensionnel, multimodal, mais quand je dis multidimensionnel, il y a des millions de dimensions. Par exemple, le corps a des milliers de senseurs. Et puis, pour trouver des solutions, en même temps, on est dans le monde physique. On a peu de temps. On ne peut pas faire beaucoup d'essais et d'erreurs. Les erreurs, c'est nécessaire, mais on ne peut pas en faire beaucoup, beaucoup. Et ça, c'est un petit problème algorithmique, parce que si on ne peut pas faire beaucoup d'essais et d'erreurs et qu'on a un espace immense, bah, il n'y a qu'une seule solution. Il faut des biais, des aides, un contexte, des contraintes qui vont guider la recherche de la solution. Et effectivement, par exemple, aujourd'hui, dans le domaine de la robotique développementale, finalement, quand on travaille sur les mécanismes de l'apprentissage, ça n'est pas sur des mécanismes les plus abstraits possibles qu'on va travailler, mais plutôt sur réfléchir à quels sont des éléments de contexte externes et internes, des mécanismes qui vont permettre de contrôler la croissance de la complexité, de guider l'apprentissage. Et donc, ça va être des choses, par exemple, comme la culture. Comment est-ce que les solutions que les générations précédentes ont trouvées, eh bien, on va pouvoir assez vite les acquérir en interagissant socialement avec les autres.
Oui, deux choses. Tout d'abord, les deux références, d'une part à l'apprentissage et d'autre part à l'idée de faire corps, hein. Effectivement, c'est présent dès le début. Hein. L'apprentissage, on le voit chez Turing, mais lorsqu'on lit le programme de John McCarthy pour l'école de Dartmouth College, immédiatement, il parle d'apprentissage. Il parle même d'apprentissage avant intelligence. Hein. C'est quelque chose de plus important. Et puis, dès les années 50, on commence avec les systèmes de Samuel, on commence à faire de l'apprentissage et on pense dès le début que l'apprentissage, c'est essentiel si on veut construire des machines parce qu'on ne pourra pas leur transmettre toutes les connaissances et que les connaissances sont essentielles pour arriver à raisonner. Et deuxièmement, faire corps, c'est très intéressant parce que, effectivement, l'article de Turing que tu mentionnais pose cette question dès le départ. Et Il dit pour des raisons de simplicité, hein, on va imaginer ce qu'on appelle le test de Turing où on va faire abstraction des corps, mais il sait que c'est un problème. Hein, il le dit,
il le dit explicitement.
Hein, donc il a pas, c'est pas qu'il a oublié. Hein, c'est simplement que il fallait commencer par quelque chose et il a dit mais déjà on peut faire un projet important. Alors deuxième chose sur le sur la notion de contexte, mais je suis tout à fait d'accord avec. Et Pierre, bien sûr, l'intelligence artificielle, c'est une discipline empirique, pragmatique. Hein, et on est toujours dans un contexte donné et on va essayer de faire des progrès. Donc ça peut être effectivement hein, sur le monde physique, hein, sur les robots. Ça peut être nous, on travaille dans d'autres secteurs. Et chaque fois, il y a une contextualisation. Il y a eu d'ailleurs, hein, il y a un certain nombre d'années, tout un tas de débats hein, sur cette notion de contexte qu'on appelait l'intelligence artificielle située pour bien montrer que... il n'y a pas de généralisation possible. Et effectivement, aujourd'hui, il y a tout un tas d'écoles qui s'appellent donc intelligence artificielle générale, hein, par exemple, hein, ou intelligence artificielle forte, hein, et qui prétendent avoir des théories qui seraient totalement déconnectées. Hein, et c'est très intéressant parce que les gens qui font ça, il y a une confusion. Hein, on connaît assez peu, hein, en France en particulier, hein, ces gens, et on les distingue assez peu. Hein. Moi, j'ai été étonné parce que j'étais dans des colloques de philosophes qui s'intéressaient à l'informatique, et il y avait des gens qui présentaient des choses, et ils ne connaissaient pas ce genre d'école. Elles sont très importantes, elles sont très proches des mouvements de la singularité technologique et elles sont faites en partie par des gens qui sont des mathématiciens ou plutôt des physiciens qui ont une approche théorique et qui se disent eh bien, on va avoir un peu l'équation de Schrödinger de l'intelligence artificielle à partir de laquelle tout va se construire. Une des hypothèses, c'est qu'on peut faire un apprentissage universel qui serait fondé sur ce qu'on appelle la complexité de Kolmogorov, hein, c'est-à-dire un principe extrêmement puissant, hein, en disant que l'apprentissage, c'est réduire la complexité des choses. Bien sûr, il y a d'abord des théorèmes qui sont extrêmement difficiles à valider, hein, et puis assez peu de réalisations empiriques qui permettent de justifier ce genre de choses. Alors, je voudrais aller plus loin là-dessus, parce qu'il y a une notion qui est souvent employée, hein, et qui est bien sûr liée à cette ambiguïté, à cette... cette confusion qu'il y a, c'est la notion d'intelligence artificielle forte. Alors là, c'est très intéressant parce que le terme apparaît dans la bouche d'un philosophe qui s'appelle John Searle. Il a écrit, dans les années 80, un texte qui est très beau, où il présente une expérience de pensée qui est passionnante, qui est l'expérience dite de la chambre chinoise. Alors, je ne sais pas, peut-être je le rappelle un tout petit peu. Hein, on suppose que c'est un Américain. C'est important, hein, parce qu'un Américain ne sait parler que l'anglais. C'est assez drôle, parce que j'ai croisé John Searle en Chine. Il faisait une conférence, et il a dit, je vous prie de m'excuser, je ne parlerai pas en chinois, parce que je suis réputé ne pas connaître un mot chinois. Donc, un Américain qui est dans une chambre et une prison, on lui donne de la nourriture et on lui dit bah, « Votre nourriture va dépendre de votre activité ». L'activité, il a un manuel qui lui dit « Si tu vois tel, il a une petite lucarne, si tu vois tel et tel signe chinois, et bah, tu prends dans le grand panier des carreaux et tu prends tel et tel carreau ». Et donc, il fait ça. Bon, comme il a faim, que la quantité de nourriture dépend de ce qu'il fait, il est de plus en plus habile. De l'extérieur, les gens qui envoient des symboles chinois, ils voient répondre avec des symboles chinois, ils se disent, ben, elle comprend, elle est intelligente. La question que pose Searle, c'est est-ce qu'au bout de 10 ans de ce régime-là, il comprendra le chinois? Et Searle dit non, il sera peut-être très bon à manipuler. Il dit l'intelligence artificielle, c'est la même chose. On manipule des carreaux, hein, mais... Alors, il dit ça, c'est important parce qu'on distingue deux intelligences artificielles. L'intelligence artificielle qu'il appelle faible, celle qui va résoudre un certain nombre de problèmes empiriques. Et là, il est enthousiaste. Il n'a aucun doute sur les succès qu'on va avoir dans les années ultérieures. Hein. Il faut savoir en même temps que les gens en intelligence artificielle ont beaucoup utilisé les travaux de Searle, hein, mais je ne rentrerai pas dans le détail là-dessus. Mais donc, il y a une connivence, hein, entre Searle et la communauté d'intelligence artificielle qui est forte. Et puis, l'intelligence artificielle forte, alors qui est autre chose. Mais lorsqu'il attaque l'intelligence artificielle forte, il n'attaque pas les ingénieurs, il n'attaque pas les spécialistes. En réalité, derrière, il vide ses collègues à lui. Ses collègues, ce sont des philosophes qui se sont emparés de l'intelligence artificielle pour dire, eh ben, on va avoir une conception d'intelligence qui va être nouvelle, une conception de l'esprit qui va être nouveau. Donc, bien sûr, il règle un problème, en réalité, avec ce qu'on appelle le cognitivisme orthodoxe, qui était assez puissant à cette époque-là. Paradoxalement, cette notion d'intelligence artificielle forte, donc qui est inventée par Searle, va être reprise par des tenants de l'intelligence artificielle générale, etc., ou un certain nombre de roboticiens d'ailleurs, hein, comme Moravec, hein, qui disent ah ben, on va faire des machines qui n'auront plus de limites, qui seront capables de tout faire. Mais c'est la même chose, hein, c'est non contextualisé. Hein, et comme ça, d'ailleurs, hein, y a un certain nombre de gens qui ont dit ben, on va faire, par exemple, un test de Turing absolu, universel. Hein, et donc, effectivement, je crois que cette notion de contexte, elle est vraiment tout à fait essentielle dans la recherche empirique et pragmatique, et elle est oubliée par un certain nombre de ces tenants de ces intelligences artificielles explosive.
Oui. Le hasard fait que John Searle sera à Paris le 15 et le 16 octobre pour un colloque sur le web. Si vous avez envie de l'écouter, c'est à la Maison des Sciences de l'Homme, puis au Centre Beaubourg. Je crois que le programme est disponible sur le site. Je crois, malheureusement, il nous reste très peu de temps. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je crois, je vois les... Ah, bon, bon. Ah, alors, on va...
Ah bah,
oui, parce qu'on a des...
Du coup, juste pour très rapidement rebondir sur ce que disait Jean-Gabriel, ça illustre très bien quelque chose. Je disais tout à l'heure, aujourd'hui, on a une révolution dans laquelle les machines deviennent des outils de pensée. La philosophie a longtemps été, au cours des siècles, une des activités de pensée les plus fondamentales et les plus nobles. Et effectivement, on s'aperçoit aujourd'hui que les machines... d'intelligence artificielle ou de robotique, quel que soit le terme qu'on emploie, sont utilisés comme des outils de pensée en philosophie pour développer des arguments dans un sens ou dans l'autre. Donc Jean-Gabriel donnait les exemples de certains courants philosophiques qui utilisent les modèles d'intelligence artificielle générale. Il y a d'autres courants philosophiques qui, au contraire, utilisent aujourd'hui certaines expérimentations en robotique pour défendre justement plutôt une vision ancrée dans le monde physique de la cognition. Des gens comme par exemple Daniel Dennett, qui d'ailleurs en fait peuvent aujourd'hui développer des arguments de philosophes français comme Merleau-Ponty il y a quelques années. Et je pense que ça, c'est un énorme progrès, parce que pendant longtemps, la philosophie a tourné en rond parce qu'on utilisait des mots derrière lesquels on n'était pas capable de se mettre d'accord sur le sens. Aujourd'hui, on a un nouveau langage qui permet d'avancer, qui est les sciences informatiques et les sciences robotiques, dans lequel derrière des mots comme langage, apprentissage, on est capable de mettre des modèles qui s'expriment dans un autre langage que le langage naturel, qui vont être précis et sur lesquels on va pouvoir discuter du sens de ces mots-là. Et ça ne veut pas dire, par exemple, d'autres exemples, ce sont émotions, sentiments, voilà. Et ça ne veut pas forcément dire qu'on va trouver tout de suite des réponses, mais au moins on va être capable de poser des questions de manière plus solide. Et c'est déjà quelque chose de savoir poser des questions solides.
Oui, ça on est d'accord, mais je crois aussi, mais ça c'est des débats d'école peut-être, mais néanmoins, il y a un clivage, un écart qui existe depuis assez longtemps, et surtout avec l'importance croissante à la fois des sciences informatiques, de la robotique, et surtout l'arrivée, on va dire, des sciences cognitives, l'écart qui existait, comme on parle aux États-Unis, entre des analytic schools et des continentals, entre la philosophie analytique, dont vous parliez, et la physique continentale qui est considérée métaphysique. Et là, l'écart aujourd'hui devient de plus en plus important. C'est tout à fait intéressant et je crois là suscite peut-être une question qui, à mon avis, est extrêmement pertinente. C'est-à-dire que la philosophie continentale, dans son histoire, a réfléchi beaucoup sur la technique, mais elle a eu énormément de mal avec l'informatique et le numérique. Je crois que c'est quand même symptomatique de quelque chose. Après, c'est remarquablement le cas, c'est assez fort à observer. Par contre, la philosophie analytique, à cause de la manière dont elle s'est développée, elle est ancrée dans des formes de pragmatique et ainsi de suite, elle a tout de suite accueilli à la fois comme objet et comme sujet pour essayer de travailler avec, comme vous venez de le dire. Mais la question qui se pose, comment expliquer cette sorte d'oubli, de méconnaissance d'une philosophie? Est-ce que c'est juste la question de confusion de mots, de définitions? Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui se passe qui est très, très intéressant. Et moi, je trouve que là, il y a un vrai sujet. Mais en vous écoutant tous les deux, à la fois entre le côté de de certains développements de passages entre des disciplines qui sont plutôt sciences humaines au début, mais qui aujourd'hui sont en train de muter en fonction de leur interaction avec informatique et numérique, et ce que j'aurais bien dit. Je suis rappelé quand même deux choses. La première, une très belle définition de l'artificiel qui est chez Gilbert Simondon. Il dit que c'est du naturel suscité. Puis après, il rappelle qu'on faisait ça depuis très très longtemps. Et ce n'est pas seulement depuis l'arrivée d'une certaine technique qu'on a appelée, etc., qu'on fait du naturel suscité. S'il y a quelque chose qui a caractérisé l'humain, c'est précisément cette dynamique qu'il a entretenue avec son environnement et son contexte. La deuxième chose, mais c'est peut-être une question à la limite, mais c'est parce que c'est quelqu'un que moi j'ai une faiblesse pour lui, puis son nom a été évoqué par Jean-Gabriel, c'est Wiener, qui quand même a à la fois été un acteur dans les deux domaines, à la fois théorie de l'information, à la fois dans la cybernétique, ainsi de suite. Et en même temps, je ne sais pas si vous avez récemment relu les deux premières versions de la cybernétique, les 10 dernières pages sont consacrées à Saint-Augustin, non pas en question de théologie, mais et ses débats avec les manichéens autour de la notion du hasard. Est-ce qu'il intéressait présent comment formuler quelque chose dans le contexte de la construction qu'il déjà prévoyait pour la prendre en compte à la fois dans la modélisation et ainsi de suite. Et la question que je me pose, qu'est-ce que vous pensez de cette... qui date quand même de 1951-52. Surtout cette notion de... Est-ce que c'est le random generation? Est-ce que c'est cette... qui joue à la fois dans la construction des algorithmes et d'autres aspects de l'informatique, ou il y a autre chose?
Non, mais pour revenir sur Wiener, je suis d'accord. Enfin, c'est toujours très très émouvant de lire ces textes parce qu'il est vraiment à l'aube hein, de cette discipline et il pressent énormément de choses. Et en même temps, enfin, je crois qu'il va très loin. Il faut savoir que c'est quelqu'un qui a une double formation, un double doctorat. Doctorat. Il est à la fois philosophe et mathématicien, et pas de n'importe quelle université, hein, dans les deux cas.
À l'âge de 15 ans. Hein,
c'était un enfant prodige. Un enfant prodige. Et en même temps, derrière, on a l'impression qu'il y a une quête qui va bien au-delà hein, et qui est effectivement hein, qui est de saisir une espèce de profondeur hein, de cette idée de désubstantialisation hein, qui va le hanter hein, qui va être un peu à l'origine hein, de cette notion d'information hein. Et quand oui. On lit les il faut savoir quand même que les deux papiers Princeps hein, sur la cybernétique qui vont être à l'origine hein, de l'information. Il y en a un, donc c'est McCulloch et Pitts hein, sur les réseaux de neurones, c'est 43. Et en même temps, la même année, l'article de Wiener et puis Rosenthal, ils sont hein, qui va porter sur ce qu'ils appellent les machines téléologiques. Hein, et ce sont des machines qui ont une téléos, c'est-à-dire une finalité, hein, qui sont capables de s'asservir à une fin. Hein, c'est ce qu'on va appeler après, en français, la rétroaction, hein, ou le feedback. Mais lui, dans son objectif initial, hein, c'était des machines qui étaient asservies à leur propre but. Et en même temps, hein, ce sont des machines informationnelles, c'est-à-dire qu'on va pouvoir représenter tout un tas de machines qui existent. Hein, donc, il reprend la chasse d'eau, il reprend le régulateur de pression, c'est-à-dire des choses qui étaient réalisées mécaniquement. Et il dit, avec ces outils-là, cette abstraction, on va pouvoir généraliser ça. Donc, il y a effectivement cette quête de schématisation, de fonctionnalité hein, qui est tout à fait essentielle. Et pour revenir hein, sur ce que tu disais sur l'artificiel, effectivement, hein, il faut savoir hein, que Jacques de Vaucanson, il a réalisé ce qu'il appelait, donc vous vous souvenez, hein, c'était ce fabricant hein, d'automates. Hein, et justement, il faisait des physiologies artificielles. C'est-à-dire que son idée, c'était quand même qu'avec la construction d'un automate, on comprenait mieux le... monde naturel. C'est pour ça qu'il faisait un joueur de flûte, hein, parce qu'il produisait les sons par le même mécanisme que celui par lequel nous produisons nous-mêmes les sons.
Bah, ce que ça me fait penser, c'est Wiener, comme Turing, comme von Neumann, ils ont eu quand même déjà à peu près toutes les grandes idées profondes des travaux qu'on a appelés par la suite intelligence artificielle, cybernétique, robotique. Et ce qui est assez curieux, c'est que voilà, l'histoire des sciences est parfois compliquée, mais effectivement, on avait parmi ces personnes-là bah, le petit groupe autour de McCarthy qui a lancé un petit peu un courant de recherche sur l'intelligence, mais avec une vision vers l'abstraction, en se concentrant sur les fonctions cognitives les plus abstraites possibles et en s'éloignant le plus possible du corps. Et puis, de l'autre côté, on avait des gens comme Wiener, effectivement, qui s'intéressaient en fait à la base aux mêmes questions, mais il n'utilisait pas d'ailleurs tellement le mot intelligence artificielle, et lui, il s'intéressait plutôt à l'intelligence sensorimotrice, à la boucle de feedback, et même certains de ses collègues, comme Ashby, avaient même déjà des algorithmes d'apprentissage sur lesquels il y avait des robots qui étaient capables, par essai-erreur, d'apprendre. Et alors, curieusement, que ça soit McCarthy ou Wiener ou Turing, au début, les questions et l'approche qu'ils formulaient étaient vraiment profondes et très générales. Mais en fait, leurs successeurs se sont un peu spécialisés sur des questions un peu plus microscopiques en oubliant la source épistémologique. Donc, par exemple, après Wiener, est venue l'automatique. Et qui a été une discipline extraordinaire pour des applications dans plein de domaines. Mais par contre, l'origine du questionnement, c'est-à-dire sur vraiment comprendre la boucle de feedback chez l'être vivant, qui est une dimension fondamentale de l'adaptation et de l'intelligence de l'être vivant, ça a été complètement oublié, à tel point même que pour des raisons historiques compliquées, tous les gens qui, pendant un certain nombre de décennies en automatique, et puis ça s'est appelé robotique, ont commencé à vouloir construire des machines avec des capacités cognitives un peu particulières, on les jetait hors du domaine. Et donc, on a eu tout un développement sensorimoteur qui s'est éloigné de la notion d'intelligence, et puis tout un mouvement d'intelligence artificielle vers l'abstraction qui s'est éloigné de la notion de corps. Et ce n'est que dans les 20-25 dernières années que ces deux branches ont commencé à se réunir. Mais quand on observe tout ça, finalement, on s'aperçoit qu'on ne fait pas beaucoup de progrès. On voit nos amis américains, la théorie de la singularité, le progrès exponentiel. Non, les questions sont difficiles, on avance lentement. Les idées majeures étaient déjà là au début des années 50.
Oui, c'est tout à fait passionnant parce que d'habitude, quand on regarde certaines des grandes sciences à quelques exceptions, on nous dit que les pères fondateurs sont importants au point de vue symbolique, mais aujourd'hui, ils n'ont presque aucune pertinence. Lavoisier et la chimie, aujourd'hui, c'est un cas historique qu'on peut étudier, mais il n'a pas. C'est intéressant avec l'informatique, von Neumann, Turing, Wiener et d'autres, comme vous venez de le dire, ils ont eu les grandes idées et on est toujours en train de contourner, revenir, essayer dans la pratique. C'est assez remarquable quand même que cette science qui n'existait pas, qui était hybride à un certain moment et qui est devenue assez, assez intéressante. Je vais m'arrêter avec Wiener. Je veux juste dire, si vous êtes intéressé, il a fait un très beau roman en même temps pour essayer de parler. Il s'intitule The Tempter. Malheureusement, ça n'a pas été traduit. C'est remarquable pour essayer de discuter, parce que c'est le sujet de la journée, les effets de l'automatisation sur le travail, parce qu'il était également intéressé par cette question depuis très très longtemps, et c'est 1954, c'est assez remarquable. Bon, je crois que je vais passer la parole à la salle parce qu'il y a beaucoup de questions. On a déjà.
Bonjour à tous, merci beaucoup. Donc, Dominique Siama, je travaille pour une école de design, mais il se trouve que dans une vie antérieure, j'étais un des pères de Jean Gabriel, enfin, les pères PAIR, évidemment.
C'est pas mal, là.
Qu'aujourd'hui, on travaille sur des problématiques de robotique. On travaille sur le projet Roméo avec Aldébaran. Et je vous remercie beaucoup tous les deux pour la mise en perspective historique et puis aussi des enjeux philosophiques attachés à l'intelligence artificielle. Je vous remercie aussi beaucoup, M. Oudéa, d'avoir, à la fin de votre intervention, parlé du corps. Parce que j'attendais en fait que ce mot-là soit prononcé, et puis je me dis, ah, super, il a été prononcé. Parce que c'est effectivement un point très, 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 très intéressant. Je me disais en vous écoutant que, à bien des égards, les propos, soit les vôtres, soit ceux auxquels vous faisiez référence, étaient attachés à des représentations. Combien c'était attaché à des représentations, entre autres, à la représentation cartésienne de la machine humaine capable de porter un fantôme qui serait son esprit. mais qui, au bout du compte, est indépendant, les deux étant indépendants l'un de l'autre. Et quand vous avez parlé du contexte, quand vous avez parlé du corps, on voit finalement une sorte de critique de cette posture-là, qui est de dire, bah, oui, non, c'est un peu plus compliqué que ça. Et vous avez parlé des robots. Vous avez parlé des robots qui sont finalement des manifestations physiques, qui ont un corps, on pourrait dire, qui vont permettre probablement d'étudier cette intelligence artificielle autrement que de manière un peu abstraite, au travers d'un paradigme qui serait celui finalement très cartésien d'un esprit qu'on pourrait étudier en tant que tel, indépendamment de ce qu'il porte. Mais il me semble quand même qu'il y a encore un problème, parce que les robots n'ont pas de corps. Les robots n'ont absolument pas de corps. Les robots n'ont que des prothèses. Parce qu'il y a le cerveau du robot, on va dire, voilà, peut-être qu'il a, on va dire, ce qui représente son esprit. Et puis, entre les deux, entre ces membres qui sont des prothèses, il n'y a pas de corps. Il n'y a rien du tout. Et donc, d'une certaine manière, il y a une sorte de contradiction. Enfin, c'est un peu contradictoire à ce que vous avez dit. C'est-à-dire qu'une certaine manière, enfin, ce que vous avez évoqué. D'un coup, on peut donner un corps à un robot et qu'à travers ça, on va pouvoir apprendre des choses. Et c'est très compliqué de saisir un verre ou d'avoir une expérience de l'eau. Mais pour une bonne et simple raison, c'est que le corps, il est souffrant. Et que le corps, il est jouissant. Et que tant qu'on n'aura pas fait un corps souffrant, un corps jouissant, eh bien, cette idée de l'intelligence artificielle, qu'elle soit faible, qu'elle soit forte, eh bien, elle sera asymptotique. Jamais on va y arriver. D'accord ? La seule manière d'y arriver, probablement, c'est de donner un corps jouissant et un corps souffrant. Parce que c'est ça, notre rapport au monde. Notre rapport au monde, il n'est qu'en souffrant, qu'en jouissant. Si j'apprends, c'est parce que je jouis ou parce que je souffre. Petit, adolescent, grand, c'est ça qui nous arrive. Et donc, c'est un peu sur ce point-là que j'aimerais vous interroger. Est-ce qu'il y a des travaux sur le corps souffrant, le corps jouissant ? Et quand je dis jouissant, souffrant, ce n'est pas les capteurs qui nous permettent de sentir « oh, c'est chaud, oh, c'est froid ». Non, non, c'est « ça fait mal » ou « c'est super génial ». Je veux recommencer.
Alors, effectivement, il y a deux points qui sont liés, mais qui sont quand même distincts dans ce que vous dites. Le premier point, vous avez totalement raison, je vais un petit peu reformuler votre commentaire. En tout cas, les robots n'ont pas du tout le même corps que celui des êtres vivants. Par contre, un certain nombre d'entre eux ont une instanciation physique. Certains d'entre eux, par exemple, se rapprochent un peu des êtres vivants parce que ce sont des êtres purement mécaniques. En fait, il existe des robots, par exemple des recherches pour comprendre le phénomène de la marche humaine, dans lesquels on essaye de comprendre quel est le rôle de la physique pour générer du mouvement structuré. On construit littéralement des paires de jambes mécaniques sans alimentation électrique et encore moins d'ordinateur. Et il y a du mouvement structuré qui est généré. Et en fait, derrière ça, derrière votre commentaire, il y a le fait effectivement qu'aujourd'hui, dans la plupart des robots, on a d'un côté un ordinateur sur un processeur avec du logiciel, et puis de l'autre, des capteurs et des moteurs vers le monde réel. Alors, il y a une instanciation physique, mais qui n'est pas intégrale. Et en fait, effectivement, ça fait partie d'un certain nombre de projets de recherche que de comprendre quelle est l'implication d'avoir un corps intégralement, y compris, on va dire, les neurones ont des propriétés physiques. D'ailleurs, aujourd'hui, les modèles de neurones formels, mathématiques, sont très différents. On sait qu'ils représentent très mal les propriétés des neurones physiques. En fait, historiquement, Turing, il avait déjà vu ce point-là. Vous voyez, chaque fois, on y revient. En fait, Turing, après avoir écrit son article sur l'intelligence artificielle, le fait de faire ce test pour voir si par le langage on allait pouvoir, faire passer une machine pour un humain, il est passé à un autre projet sur la morphogénèse. Et en fait, on s'est aperçu que dans ce projet-là, le projet qu'il mettait en place, qui commençait, il n'a malheureusement pas eu le temps de le développer, c'était de dire, en fait, il y a eu un premier argument qui est de dire, il faut que les robots, les machines, elles apprennent. Mais en fait, non. Il faut vraiment que les machines se développent physiquement à partir d'une cellule germinale. Et c'est ça les premiers. Il a développé les premiers. Alors, c'était des modèles mathématiques qui n'étaient pas encore ancrés dans le monde physique, mais les premiers modèles mathématiques où il y avait un modèle de cellule avec des lois physiques et chimiques d'interaction avec leur environnement. Et pour lui, c'était sa manière de dire, c'est probablement ça la voie. Et cette voie-là, c'est exactement celle que dont vous parlez. Aujourd'hui, elle se transforme un petit peu, par exemple, on peut la voir dans les recherches qui essayent de s'intéresser à ce qu'on appelle un petit peu le natural computing, le calcul naturel. Les gens, par exemple, qui vont essayer de voir si avec de l'ADN ou d'autres molécules chimiques, on est capable de faire des calculs un peu différents que ceux qu'on fait avec des ordinateurs classiques. Ce n'est pas totalement évident encore qu'il y ait une équivalence complète, et peut-être qu'il y a des choses justement qu'on peut faire avec du substrat physique qui sont pas les mêmes. Donc c'est une vraie question, et c'est une question de recherche. La deuxième partie, c'est celle de votre question, c'est sur les valeurs. Et vous avez entièrement raison, et aujourd'hui c'est un sujet de recherche très important. Quand on essaye de comprendre les mécanismes cognitifs ou sensorimoteurs chez le vivant, eh bien, une partie, tout à l'heure on parlait d'essayer de décomposer un petit peu l'architecture de la cognition, je préfère le mot cognition que le terme intelligence, eh bien, il y a une partie très 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 importante, c'est le système de valeurs qu'on va appeler dans la langue de tous les jours la souffrance ou le plaisir. Alors le système de valeurs, en fait, il y a plusieurs étages. Il y a un étage qui va, par exemple, ça va correspondre à ce que certains biologistes appellent des émotions, qui n'est pas la même chose que ce que Monsieur Tout le Monde appelle des émotions, qui a un système chimique interne au corps et qui permet d'encoder des quantités internes à maximiser ou à minimiser, et qui peuvent encoder, par exemple, le fait de vouloir maintenir son intégrité physique, vouloir se reproduire ou vouloir favoriser le contexte social. Et du coup, on va pouvoir développer, aujourd'hui, on travaille beaucoup sur ça, des modèles mathématiques, informatiques, de systèmes de valeurs dans lesquels, effectivement, on va avoir ces objectifs-là. On appelle ça parfois des variables de viabilité qui sont au cœur du système. Maintenant, il y a un autre étage, qui est un étage beaucoup plus mystérieux aujourd'hui. C'est celui de ce que ces biologistes qui considèrent les émotions de cette manière-là vont appeler le sentiment. Donc, par exemple, comme Damasio. En gros, pour lequel ils vont dire, bon, OK, il y a les émotions, mais c'est un stream chimique de transmission de signal pour maximiser des variables de viabilité. Mais au-dessus de ça, il y a un système qui permet de représenter de manière consciente, accessible et cognitivement manipulable ce système de valeurs dans mon corps. Et ça, c'est des choses qu'on ne conceptualise pas encore très bien. On en est encore loin, mais je pense que la modélisation est un outil parmi d'autres qui peut permettre de faire des petits pas pour mieux comprendre ça.
Bon, je me présente. J'ai fait 20 ans de recherche et développement en télécommunication d'entreprise. J'ai étudié les circuits neuronaux. J'ai fait 15 ans d'enseignement catholique. Il y a un mot que je n'ai pas entendu de l'après-midi, c'est le mot « personne ». Et je pense que quelque part, la personne, les robots sont composés effectivement d'esprit, de corps, mais on oublie complètement l'affectivité, la capacité d'aimer. Et je pense que quelque part, dans cette conclusion, dans cette partie d'après-midi, je pense que c'est important de se tourner vers la notion de ce qu'est, veut dire aimer, ce que veut dire le corps, ce que veut dire la relation à Dieu.
Bah, je pense que le commentaire, c'est à peu près la même question. Hein. Oui, alors, sauf Dieu, oui. Oui. Mais sinon, c'est vraiment une question très similaire. Oui, le système motivationnel, émotionnel est clairement fondamental dans l'intelligence des êtres vivants, et on comprend assez mal comment il fonctionne.
Mais peut-être pour reprendre ça d'une autre façon, hein, peut-être un peu plus abstraite, hein, même si bon, il y a des travaux, hein, l'affectivité des machines, mais il ne s'agit pas de donner vraiment une affection, hein, c'est de mimer de l'extérieur des comportements qui seraient ceux d'une machine qui éprouverait des émotions. Mais je crois que de façon plus abstraite, la question qui se pose, c'est celle de la conscience. Et effectivement, du point de vue philosophique, et il y a des débats justement, parce qu'il y a des malentendus, le terme de conscience peut désigner plusieurs choses différentes. Et donc, il y a une conscience simplement simulation. Enfin, le fait que de l'extérieur, hein, on a parlé des nets et des systèmes intentionnels, le comportement semble analogue à celui d'une entité qui serait mue par une conscience. Et c'est effectivement ce sur quoi Turing a mis l'accent dans le test de Turing. Et il avait bien compris que ce n'était pas la même chose, hein, mais il le dit de façon claire. Et puis ensuite, il y a une deuxième question qui est celle de la conscience phénoménologique, c'est-à-dire du fait que la machine éprouve des émotions. Et ça, c'est le deuxième sens. Et ça, bien sûr, on en est très loin. Et pour revenir à Turing, parce que c'est intéressant, quand il répond aux objections que l'on fait à l'idée qu'une machine puisse être intelligente, il répond à cette objection-là, parce qu'il dit « certaines personnes diront que la machine n'a pas de conscience ». Et il dit « après tout, ce n'est pas le problème, parce que dans le contexte qui est le nôtre, ce qu'on cherche à faire, c'est juste une machine qui fasse illusion, et on ne sait pas d'ailleurs si une machine a une conscience, puis même si on l'a, elle sera peut-être très différente de la nôtre, hein, ce qui recouvre un peu hein, la question du corps. Et puis, il y a une troisième notion de conscience qui est le fait de se voir en train d'agir. C'est une conscience réflexive. Et là, bon, on peut très bien imaginer des machines qui sont capables d'auto-apprendre, hein, de se regarder en train d'agir et de s'améliorer. Et là, bon, bah, y a des réalisations.
Sur la conscience, c'est très intéressant parce que dans le discours sur la singularité et dans d'autres écoles transhumanistes, c'est mon hypothèse en tout cas, c'est que une des raisons pour la réussite actuelle depuis quelques années, alors que ces théories existent depuis un certain temps, ils ont décidé, à quelques exceptions près, de ne plus parler de conscience. Ils ont opté pour autonomie. Et c'est tout un autre modèle à la fois philosophique, conceptuel, qui leur permet de développer toute une série de discours qui sont curieusement beaucoup plus populaires et beaucoup plus faciles à transmettre et à expliquer. C'est tout à fait remarquable parce que sur la conscience, les objections sont tout de suite presque immédiates. Mais avec l'autonomie, avec des traditions à la fois juridiques et autres associées à la notion d'autonomie, surtout aux États-Unis, parce que ça a commencé avec l'esclavage, ça a été étendu au monde animal, au monde végétal, maintenant aux êtres numériques. Et du coup, c'est assez intéressant et passionnant de voir comment ils ont déplacé leur discours. Est-ce qu'il y a d'autres... Claude ?
Merci, Claude Kirchner. Un des points que j'apprécie en particulier dans les travaux de Périph, c'est les modèles de curiosité. Et on n'en a pas parlé ce soir.
Oui. C'est tout à l'heure, je disais, les machines sont utiles pour essayer d'y voir un petit peu plus clair sur des phénomènes de la cognition. Par exemple, quand on s'intéresse à l'enfant qui grandit et qui apprend, un phénomène absolument fondamental dans son développement, c'est ces mécanismes d'exploration spontanée, ces mécanismes qui vont aller rechercher comment est-ce qu'on interagit avec tous les trucs qui sont à sa portée de main, de les jeter, les prendre. Et puis quand il grandit, quand il va trouver une histoire, tout de suite il va vouloir la lire. Et puis quand on grandit et qu'on est un adulte, encore une fois, on est attiré par l'information. Et c'est ce que dans la langue de tous les jours, on appelle souvent la curiosité. Et effectivement, c'est un mécanisme qui semble fondamentale dans notre vie quotidienne et dans le développement cognitif. Et pourtant, on ne comprend pas vraiment ce que c'est, et c'est un mot qui est pour le moins pas très clair. Par contre, à partir du moment où on remonte aux origines des mécanismes de l'exploration spontanée, on peut commencer effectivement à modéliser un petit peu comment ça peut fonctionner, comment, par exemple, on peut mesurer la nouveauté ou la surprise des actions qu'on fait par rapport au modèle prédictif qu'on avait avant. C'est-à-dire que par exemple, quand on est un enfant ou quand on est un robot qui apprend, on fait des expériences avec son corps, on fait des actions, on regarde ce qui se passe, on collecte des données, et puis là on peut faire des modèles statistiques qui peuvent permettre de faire des prédictions dans des situations qui sont un petit peu différentes. Et quand on fait des prédictions, on peut aussi comparer nos prédictions avec ce qu'on observe. Et quand on fait cette comparaison-là, la théorie de l'information nous donne tout un tas d'outils pour mesurer des éléments, par exemple, de différence entre nos prédictions et ce qu'on observe et qu'on va pouvoir utiliser pour modéliser des formes de ce que, dans la langue de tous les jours, on appelle la surprise. Et alors, par-dessus ça, quand on a cette mesure-là, par exemple, on peut l'utiliser dans un système de valeurs, on en parlait tout à l'heure, qu'on va mettre à l'intérieur du robot, et on va pouvoir se poser la question, qu'est-ce qui se passe dans un robot, par exemple, si on lui dit, plutôt que de le forcer, par exemple, à apprendre à attraper une bouteille d'eau, apprendre à marcher le plus vite possible, apprendre à envoyer des tweets pour modifier l'opinion des gens pour modifier un cours de bourse, plutôt que lui donner des objectifs ultra précis comme ça, qu'est-ce qui se passe si on lui donne un objectif un petit peu plus méta? On lui dit, explore le monde pour maximiser le gain en information que tu vas avoir, un petit peu comme un scientifique. Et en fait, quand on travaille sur ces modèles-là, et qu'on les instancie dans des corps robotiques, et donc qu'on regarde ce qui se passe, ça fait bouger le corps, ça fait de l'exploration, eh bien, on est capable de retrouver un certain nombre de patterns d'organisation comportementale qu'on trouve chez le nourrisson. Par exemple, pour l'exploration vocale, si on met ce genre de système-là, ce genre de modèle d'exploration spontanée dans des modèles de conduit vocal avec des oreilles, on s'aperçoit qu'on retrouve les étapes qu'on voit chez le nouveau-né dans les quelques premiers mois. Par exemple, le babillage complètement inarticulé au début, puis progressivement la découverte de son voyelle, et puis de son consonne, et puis de combinaison voyelle-voyelle, et puis de combinaison voyelle-consonne. La syllabe apparaît et toute cette séquence d'événements, elle n'a pas été programmée par l'ingénieur, elle est le résultat de l'interaction dynamique entre ce système d'apprentissage, ce système qui cherche à gagner de l'information et que, après, on peut se poser la question, est-ce que le mot curiosité ou pas, c'est un bon mot, mais en tout cas, ça pousse la machine à explorer spontanément ses interactions avec l'environnement et puis donc l'interaction avec les propriétés physiques qui est autour de lui. Et donc là, on a quand même fait un petit pas en avant parce que, du coup, l'exploration spontanée qu'en psychologie développementale, on sait être fondamental dans le développement de l'enfant, mais on ne sait pas comment ça fonctionne. Là, au moins, on a une hypothèse de mécanisme qu'on peut tester, puis on peut faire des prédictions. Et puis aujourd'hui, même ce qu'on fait, c'est des expériences avec des humains, des enfants, des animaux, des expériences comportementales dans lesquelles on confronte ces prédictions avec ce qu'on observe. Et donc, on n'est plus dans le langage naturel, on est dans la science.
Une dernière question ? Le micro arrive.
Désolé. Moi, j'ai une question qui était plus une question un petit peu pratique sur la façon dont vos travaux se développent et la façon dont ils bouclent avec, vous l'avez d'ailleurs un tout petit peu évoqué, avec les neurosciences et je dirais la progression quand même assez rapide, même s'il reste encore beaucoup à faire, du fonctionnement non seulement du cerveau, mais je dirais de l'intelligence telle qu'on peut parfois la définir à l'intérieur de l'être humain. Et ça, c'est une question, c'est comment est-ce que s'organisent un peu ces travaux qui avancent à travers, quand même, somme toute, des spécialités assez différentes. Et vous l'avez un tout petit peu évoqué, et je crois qu'il y a un sujet qui est très intéressant en ce moment de neurosciences, c'est que les neurosciences sont parties depuis quand même longtemps sur les modèles anciens d'un cerveau qui commande le reste, et on se rend compte que c'est probablement pas vrai. C'est-à-dire que le cerveau joue un rôle parmi d'autres, mais n'est pas obligatoirement le seul détenteur des choses. Et ça rejoint d'ailleurs le problème du corps que vous avez cité tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement une incarnation des choses, mais il y a aussi des tas de cerveaux secondaires qui agissent sur le cerveau central et qui ne sont pas uniquement des capteurs ou des receleurs d'émotions ou de tas de choses. Voilà, c'est ça un peu ma question. C'est comment est-ce que tout ça s'articule dans la façon d'essayer de comprendre ce qui se passe.
Alors, Enfin, tout ce que vous évoquez là, c'est l'histoire de ce qu'on a appelé les sciences cognitives. Hein. Donc, c'est une évolution des neurosciences qui s'intéressait au départ essentiellement à la physiologie. Hein. C'était des spécialistes des cellules qui se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas se contenter simplement d'avoir une bonne connaissance des éléments qui étaient dans le cerveau, qu'ensuite, il fallait qu'ils comprennent les différentes fonctions et donc qu'il y ait à la fois un lien avec des disciplines comme la psychologie, comme la linguistique, mais aussi qui passe par un certain nombre de modèles et de modélisations. Et ça s'est développé énormément à partir des années 80, hein, où on a commencé à reprendre des modèles qui avaient été introduits par la cybernétique pour faire de l'apprentissage avec des réseaux de neurones. Attention, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, les réseaux de neurones sont aussi dans l'héritage de l'intelligence artificielle. Hein. Il n'y a pas de coupure aussi forte qu'on a bien voulu le dire à une certaine époque entre les deux. Et puis, bien sûr, hein, depuis 30-35 ans maintenant, hein, il y a énormément de travaux hein, et ça devient très spécialisé. Hein. Il y a donc ce qu'on appelle les neurosciences computationnelles, c'est-à-dire que tout l'aspect modélisation avec des outils informatiques de ce qui se produit dans le cerveau et puis ensuite toutes les investigations possibles qu'il peut y avoir autour des fonctions cognitives qui sont réalisées avec des outils qui sont extrêmement puissants aujourd'hui, qui sont tout ce qu'on appelle l'imagerie fonctionnelle cérébrale, qui permet de suivre presque en temps réel l'activité, plus exactement les corrélats physiologiques de l'activité cérébrale. Donc on peut soit mesurer le champ électrique qui est corrélé avec l'activité cérébrale, soit le champ magnétique, soit avec l'IRM, on mesure le taux d'oxygénation du sang et donc les zones qui auront été actives. L'intelligence artificielle, d'ailleurs, joue un rôle important dans cette imagerie, dans le perfectionnement de cette imagerie cérébrale. Et donc, pour revenir à ce que vous dites, effectivement, il y a eu beaucoup de travaux ensuite sur le lien entre les émotions et le cerveau, sur les différentes fonctions qui sont mises en œuvre. Et on s'est rendu compte, bien sûr, si vous regardez par exemple les travaux de Stanislas Dehaene, toute la complexité de ces phénomènes. Et c'est vrai donc que l'intelligence artificielle a joué un rôle parce qu'on est passé de modèles qui étaient des modèles comportementalistes à des modèles qui essayaient de mieux comprendre les mécanismes eux-mêmes.
Réaction rapide ou...
Oui, enfin, aujourd'hui il y a beaucoup d'interactions entre les sciences artificielles et les neurosciences. Sciences artificielles regroupant intelligence artificielle, robotique, d'autres domaines. À tel point, et là en fait, je trouve qu'il y a certains très beaux succès. Aujourd'hui, il y a certains outils de modélisation qui sont utilisés par exemple pour comprendre le fonctionnement des circuits dopaminergiques dans le cerveau, circuits de la récompense d'ailleurs, et du plaisir. Qui viennent du machine learning, de l'apprentissage automatique. Par exemple, la théorie de l'apprentissage par renforcement, qui a été développée par des gens comme Bartow ou Sutton ou encore d'autres personnes, ils ont développé un certain nombre de modèles qui sont aujourd'hui utilisés au quotidien par les biologistes et en particulier la spécialité de neurosciences pour interpréter leurs modèles. Et donc ça, c'est un exemple rare de succès dans lequel on a vraiment pas juste une collaboration un peu ponctuelle. Ici, on a vraiment des outils conceptuels qui viennent de l'informatique qui sont maintenant utilisés au jour le jour dans des labos de biologie.
Je tiens à vous remercier tous les deux et on a compris, je crois, que les robots sont les cabinets de curiosité contemporain. Merci beaucoup à vous deux.
Alors merci beaucoup à tous ceux qui ont permis cette belle journée, à Jacques-François et Mila d'avoir conçu et animé tout cet ensemble. Merci aussi aux pilotes d'avoir permis que nous soyons bien reçus, sustentés, que tout fonctionne bien. Je vous donne deux dates. Pour la suite des activités de la chaire, le prochain grand événement public comme celui-ci est le jeudi 18 février, les mêmes horaires, 14h30, 20h30. Jeudi 18 février, nous aurons toute une réflexion sur, au fond, les premiers retours et premières pistes de un an de recherche de chaire sur l'humain au défi du numérique. On essaiera de commencer à répondre à la question où en est l'humain face au numérique. Voilà. Donc, essayer de pouvoir faire connaître un peu tout ce que nous avons travaillé ici pendant un an. Et sinon, mercredi prochain, mercredi 14 octobre, nous continuons le séminaire de recherche. Et donc mercredi 14, de 18h à 20h, nous avons une séance intitulée « Jouer », donc le jeu à l'ère du numérique, avec, je crois, Mathieu Triclot, si je me souviens bien, philosophe, spécialiste de ces questions. Donc, c'est aussi les bienvenus. Bonne soirée. Au revoir.